Nous avons vu la dernière fois comment la question de notre chemin d'amour n'était pas une question de vouloir aimer en mobilisant toute l'énergie de notre volonté, mais bien plutôt une question de savoir se disposer à ce don de Dieu qu'est la charité divine. Mais d'une manière générale, on peut dire que le but de ce cours, de ce parcours que nous avons fait ensemble, a été d'essayer de mieux discerner ce qui dépend de nous et ce qui dépend de la grâce de Dieu, et la manière dont nous pouvons donc coopérer à cette œuvre de sanctification dont Dieu a l'initiative en nous, mais qu'il ne peut pas faire sans nous. D'une manière générale, j'ai insisté donc sur le primat du cœur de cette vie de foi, d'espérance et de charité dont tout le reste dépend. C'est sûr que, en définitive, seule la charité restera, comme dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Mais sur cette terre, la charité est absolument inséparable de la foi et de l'espérance. Et d'une manière générale, comme nous l'avons vu, ce qui dépend de nous, c'est plutôt de travailler au niveau de notre vie de foi et d'espérance, en restant conscient que la foi et l'espérance elles-mêmes sont des dons de Dieu. Il y a une image qu'on trouve dans le Concile Vatican II qui est celle de la charité comme d'une graine qui ne demande qu'à germer et à porter du fruit en nous et à travers nous. Si l'on compare la charité comme une graine, alors il est bon de considérer notre cœur comme une terre, et une terre qui a besoin essentiellement d'être labourée. Autrement dit, le combat spirituel est essentiellement pour nous un travail de labourage pour permettre à l'amour d'être effectivement le moteur et la source inspiratrice de nos actions. Si c'est l'amour vivant, l'amour vif actuel, comment dire, un amour brûlant qui anime notre cœur, nous n'avons rien à craindre des passions de la chair, parce que le feu de l'amour est plus puissant que le feu des passions, il éteint le feu des passions. C'est ce qui fait dire à saint Jean que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Celui qui est né de Dieu, c'est celui qui vit de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire de la charité divine, condition que celle-ci soit vraiment en acte. À ce moment-là, nous pouvons repenser aux paroles de saint Paul, « Laissez-vous mener par l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. » Donc, le but, ce n'est pas de passer notre vie à lutter contre des passions désordonnées qui sont en nous, mais le but, c'est de trouver le chemin d'un amour suffisamment brûlant pour que les passions qui nous habitent ne l'emportent pas et ne nous emportent pas avec elles sur des chemins de mort. Le but de l'enseignement que j'ai donné est de nous aider à aller jusqu'à la racine du mal en essayant de voir plus profondément tout ce qui s'oppose à la foi, à l'espérance et à la charité en nous. D'une manière générale, on peut dire que cette racine du mal, elle se résume au fond au péché originel, qui est le péché source, qui est à la fois dans une volonté d'indépendance qui est en nous, une volonté, un désir de pouvoir nous appuyer sur nous-mêmes, sans dépendre d'un autre, et en même temps l'orgueil spirituel qui fait que nous cherchons, d'une manière ou d'une autre, à nous élever nous-mêmes, à nous exalter, en prenant l'image, un idéal de nous-mêmes, une image parfaite de nous-mêmes comme but de notre vie, alors que nous ne sommes pas faits pour nous regarder nous-mêmes et pour regarder Dieu. Je veux dire que la racine du mal, c'est notre égocentrisme foncier qui nous empêche donc d'entrer dans cette vie d'amour et d'union qui seule peut faire vraiment vivre notre âme. Alors nous avons essayé d'aller dans les profondeurs donc du péché en nous, mais je suis tout à fait conscient que ces lumières sur notre péché intérieur, elles ne peuvent être données en des définitifs que par le Christ lui-même. C'est lui qui est le médecin des cœurs. Et il n'y a que lui qui puisse nous révéler notre orgueil spirituel secret, notre recherche de nous-mêmes, qui peut se cacher derrière les intentions les plus généreuses. Donc, en suivant un enseignement comme celui-ci, on se met simplement, j'allais dire, en appétit pour laisser Jésus nous éclairer plus profondément. Parce que, en réalité, cette connaissance de la racine du péché ne pourra jamais se faire simplement comme une connaissance intellectuelle, mais peut-être que le fruit d'un chemin que Jésus guide et pour lequel il se sert évidemment des événements de notre vie. Jésus seul peut nous révéler la profondeur de notre péché. Et Jésus seul peut nous en sortir. Je vous rappelle ce que dit saint Paul. Il est mort pour nous, afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il est mort pour que nous puissions mourir à nous-mêmes. Et tout ce qui en nous s'oppose à la confiance, à la foi, à l'espérance, tout ce qui nous empêche de sortir de nous-mêmes pour nous tourner vraiment vers Dieu, tout cela Jésus l'a porté dans sa passion. Dans sa passion, il a assumé nos repliements sur nous-mêmes. Il en a porté le poids de tristesse, d'angoisse, de mort. Il est descendu dans nos prisons intérieures, dans ces enfermements dans notre petit moi. Il a voulu porter notre incapacité à nous abandonner vraiment à notre Père du ciel et à nous laisser aimer par lui. Et nous en avons le signe à travers sa parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Où Jésus éprouve dans son âme toute la distance qui sépare le pécheur de Dieu. Il est victorieux de cet enfermement en nous-mêmes par l'acte d'abandon qu'il a vécu sur la croix et dont il nous a laissé aussi l'expression quand il a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Jésus, sur la croix, est tout entier tourné vers le Père, dans une livraison de lui-même, ne vivant plus que de cet accomplissement de la volonté de Dieu. Toute obéissance aimante, et c'est cette obéissance vécue aimante filiale, vécue jusqu'à la mort, alors même qu'il s'éprouve dans son humanité comme abandonné par le Père, c'est cette obéissance de Jésus qui a réparé une fois pour toutes nos volontés d'indépendance, et tous nos retours sur nous-mêmes. Et donc désormais c'est le Christ, victorieux du péché originel, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est-à-dire le péché originel. C'est le Christ qui vient nous chercher, nous prendre par la main et nous tirer vers le Père, et qui a le pouvoir d'ouvrir à nouveau la porte de la foi, de l'espérance et de l'amour dans nos cœurs. Donc c'est lui, le Fils bien-aimé du Père, qui a fait pour nous tout le chemin du retour. Et la première chose qu'il attend de nous, c'est que nous nous laissions saisir par lui dans ce mouvement de retour vers le Père, pour ça que nous l'écoutions. Je vous rappelle la petite parole de Benoît XVI, la contemplation de Jésus est la base de tout. Oui, telle est la volonté de mon Père, dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 6 au verset 40. Que quiconque voit le Fils, traduire contemple le Fils et croit en lui, est la vie éternelle. Voilà ce qui est le commencement du salut pour nous, voir le Fils et croire en lui, c'est-à-dire nous laisser attirer, toucher par lui, et croire en lui, adhérer à sa vie, pour nous laisser emporter par lui sur le chemin de la foi, de l'espérance et de l'amour. Quiconque voit le Fils bien-aimé du Père, quiconque voit Jésus dans sa relation au Père, quiconque le contemple dans cet amour filial qu'il a vécu jusqu'au bout sur la croix, Et quiconque adhère à ce mystère, quiconque se laisse saisir par lui, entraîner par lui, bien, celui-là entrera dans la vie éternelle parce qu'il sera conduit par Jésus sur le chemin de la foi, de l'espérance et de l'amour. Dans le combat spirituel, nous pourrions être tentés, pour nous sortir de l'engrenage du péché, d'essayer de procéder un peu par une sorte d'auto-analyse continuelle, en essayant de voir d'où vient ce péché, d'où vient cette faute que nous avons commise, et en essayant d'aller un peu jusqu'à la racine par une certaine analyse des passions et de ce qui se cache derrière nos passions. Mais je dois vous dire que plus je réfléchis à ce chemin, plus je me dis qu'au fond, il y a un piège de vouloir sortir de notre égocentrisme en nous regardant nous-mêmes. Et qu'en réalité, de fait, il y a bien besoin de voir notre péché. Nous avons besoin de prendre conscience des choses pour les offrir à la miséricorde de Dieu. Mais il apparaît de plus en plus évident que moins on se regarde soi-même d'une manière inquiète, cherchant à voir son péché, moins on se regarde soi-même et mieux on peut se voir si on demeure dans un simple regard sur Jésus. Donc s'il y a des paroles que vous avez entendues pendant cet enseignement qui ont pu un peu vous pousser à un certain découragement ou un repliement sur vous-même, c'est que elles n'étaient pas pour vous, ces paroles, et qu'elles ne correspondaient pas à une lumière actuelle de Dieu, qu'il nous faut rejeter toute forme de jugement humain sur nous-mêmes, gardant les yeux tourné vers Jésus, qui est la lumière, et qui seul peut nous donner de voir notre péché et la racine de nos péchés en vérité. Autrement dit, c'est son humilité qui nous révèle notre orgueil, c'est sa patience qui nous révèle notre violence intérieure, c'est son abandon au Père qui nous révèle toutes nos résistances et nos désobéissances à Dieu intérieur, notre attachement à notre volonté propre. Tout ça, nous le voyons en voyant Jésus. Évidemment, on pourrait tomber dans l'autre excès de personnes qui se délecte de lecture sur Jésus, de compréhension théologique du mystère de Jésus, sans jamais arriver à faire la jonction avec leur vie. Mais si nous nous regardons Jésus et Jésus lui-même, au-delà de la connaissance intellectuelle que nous pouvons avoir de son mystère, c'est évidemment dans le désir de le suivre, c'est-à-dire aussi de nous convertir. Et donc nous le regardons en étant dans cette attitude du pécheur, du malade face au médecin. Qui laisse le médecin opérer son diagnostic. Et opérer son œuvre de guérison, de purification de la plaie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quand je dis regard sur Jésus, j'insiste pour dire que c'est un regard sur le fils bien-aimé du Père, c'est-à-dire un regard dans la foi au Christ vrai fils de Dieu, et pas simplement de regarder Jésus dans son amour pour moi. En m'arrêtant à Jésus, si je puis dire, dans une recherche donc d'une relation simplement entre une relation à deux, mais de considérer toujours dans notre regard sur Jésus le Père, puisque Jésus dans sa personne est relation au Père. Il est pure relation au Père, il est pure filiation. Donc je ne connais vraiment Jésus que quand je le contemple dans sa relation au Père. Et c'est cette relation de Jésus au Père qui est en définitive la vraie vie c'est de connaître le Père, d'être tourné vers le Père. Et c'est cette relation donc à notre Père, de Jésus au Père, qui est en définitive salvifique pour nous, puisque comme je l'ai dit, c'est son abandon au Père qui nous purifie de notre esprit de désobéissance, d'orgueil, d'autonomie. Mais aussi c'est cette relation d'amour au Père qui est la vraie vie et qui, en définitive, nous attire, qui parle à notre cœur, qui est ce qu'il y a de plus beau, et donc que nous avons besoin de regarder pour sortir de nous-mêmes. Je repense ici aux expressions de la petite Thérèse. Ma mère chérie, maintenant, je voudrais vous dire ce que j'entends par l'odeur des parfums du bien-aimé. Puisque Jésus est remonté au ciel, je ne puis le suivre qu'aux traces qu'il a laissées. Mais que ces traces sont lumineuses, qu'elles sont embaumées. Je n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint-Évangile, aussitôt je respire les parfums de la vie de Jésus. Et je sais de quel côté courir. Pensons que les parfums de la vie de Jésus, c'est d'abord le parfum de son amour pour le Père. Quand Jésus dit « Élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi », il dit aussi en même temps, dans son discours de la scène, il faut que le monde sache que j'aime le Père. J'attirerai tous les hommes à moi dans mon sacrifice au Père, dans mon offrande et mon abandon au Père. Voyez, dans notre chemin de libération de notre égocentrisme, libération de notre gros moi, tellement gros, comme disait Père Thomas, qu'on ne le voit pas, en définitive, la clé, elle est dans la contemplation de celui qui est totalement décentré de lui-même, est totalement tourné vers le Père et qui se révèle à nous comme étant la vraie vie, qui nous fait sentir ce parfum de la vie véritable et de l'amour véritable, qui donc vient parler à notre cœur le toucher de telle manière que nous puissions lâcher le vieil homme parce que nous avons découvert le trésor caché. Alors que si on est simplement dans l'attitude de la personne qui se dit « il faut que je me convertisse, il faut que je renonce à moi-même, il faut que je sois moins orgueilleux, il faut que je sois moins dans l'esprit de possession, dans la cupidité », et qu'on reste toute la journée à essayer de traquer nos péchés et d'être attentif à nos fautes en essayant de voir d'où elles viennent, et eh bien, vous comprenez qu'on risque de s'épuiser assez vite. On peut avoir toutes les connaissances qu'on veut, même du chemin spirituel, on peut avoir bien assimilé ce que dit saint Jean de la Croix dans la montée du Mont Carmel, sur les purifications de l'âme, sur le chemin du détachement. En définitive, le moteur, il n'y en a pas 36 000, c'est Jésus lui-même. Et donc, si nous ne voulons pas finir par nous décourager en étant repliés sur nous-mêmes dans notre lutte contre notre repli sur nous-mêmes, eh bien, il nous faut comprendre que il n'y a qu'une seule porte de sortie de nous-mêmes, c'est le Christ, contemplé, cru, auquel nous adhérons, pour qu'il nous fasse passer de nous-mêmes au Père. Quand la petite Thérèse disait que l'ascenseur, c'était les bras de Jésus, je pense qu'elle avait senti ça dans son cœur, qu'elle ne pourrait être sainte que si Jésus lui communiquait sa sainteté, et que pour ça elle voulait garder ses yeux fixés vers lui, en le laissant donc faire son œuvre en lui. C'est ça la vraie foi. C'est une foi qui adhère en gardant les yeux fixés vers celui auquel nous adhérons, de telle manière qu'il puisse opérer toute la puissance de son œuvre de rédemption en nous, en nous attirant, en nous tirant hors de notre péché. Donc je vous redis la réponse du cardinal Ratzinger, un jeune étudiant allemand lui demandant comment devenir un saint, et auquel il a répondu simplement « Aime Jésus et suis-le ». Aime Jésus, c'est-à-dire laisse-toi attirer par la beauté de sa vie d'amour dans sa relation au Père. Et suis-le concrètement pour que cette puissance d'attraction du Christ soit vécue de manière effective. Elle doit être vécue à l'occasion des événements de notre vie, en laissant Jésus nous rejoindre et nous attirer à lui dans les événements de notre vie, à travers lesquels il nous touche concrètement et il vient parler concrètement à notre cœur. En fait, la manière dont nous allons pouvoir mener le combat spirituel dépendra à la fois surtout de notre capacité à regarder Jésus plus que nous-mêmes, à revenir à la contemplation de Jésus à travers l'écoute de sa parole, et la capacité que nous aurons à nous laisser modeler, à nous laisser conduire à travers la vie concrète. Je dirais qu'il y a deux conditions pour que nous puissions bien profiter des événements éprouvants et purifiants de notre vie. La première chose, c'est que donc, nous revenions à ce regard sur Jésus plutôt que d'être dans une continuelle auto-analyse ou analyse des événements, de revenir d'abord à Jésus qui est la seule lumière qui puisse nous révéler le sens des choses, des événements, en même temps que de nous révéler les secrets, les sentiments cachés de notre cœur. Et tout ça va de pair aussi avec ce que dit le Concile, c'est-à-dire que les fidèles se sanctifieront dans toutes les circonstances de leur vie à condition de recevoir toutes choses par la foi de la main de leur Père du ciel. C'est-à-dire écouter Jésus dans les événements, le laisser nous parler à travers les événements de notre vie, qu'il puisse opérer son œuvre de rédemption en nous, ça suppose à la base aussi cette attitude de foi en Dieu qui consiste à recevoir toutes choses de sa main. C'est en recevant les choses de la main de Dieu qu'elles nous parleront. Nous pourrons entrer dans la lumière de la foi. Au lieu de rester dans des tentatives toujours trop courtes de compréhension par mode d'analyse. On peut se demander pourquoi il y a des personnes qui avancent, puis il y en a d'autres qui n'avancent pas. Alors qu'elles sont toutes bien intentionnées, tout le désir d'avancer dans leur vie spirituelle, je crois que ça va dépendre donc essentiellement de cette capacité à se laisser travailler par la grâce, à se laisser travailler par le Christ. Ce qui suppose donc, vous le comprenez bien, la capacité à vivre surnaturellement les choses les plus naturelles. C'est-à-dire à ne pas se contenter de regarder la vie passée, pas se contenter de se débattre avec les problèmes matériels, mais garder présent que Dieu fait tout, absolument tout concourir à notre bien, c'est-à-dire à notre sanctification. Et que Jésus vient toujours, sans cesse, à notre rencontre pour nous prendre par la main et nous tirer avec lui, par lui, vers le Père, quelles que soient les circonstances de notre vie. Et le temps qui n'est pas vécu dans ce regard de foi et dans cette écoute du Christ est du temps perdu pour l'amour, comme dirait le Père Thomas. Des temps où nous restons à la superficie de nous-mêmes et nous laissons les soucis du monde et les plaisirs de la vie et les convoitises étouffer notre cœur et étouffer la parole qui est le Christ en nous. Le pire, vous voyez, serait de garder comme une double vie entre des moments où nous consacrons un certain temps à nous nourrir de belles pensées spirituelles, mais sans arriver à rejoindre un simple regard sur Jésus, sans nous centrer vraiment, le plus souvent vraiment, sur la personne même du Christ, mais en étant plutôt dans un monde de spiritualité, je dirais, qui nous nourrit à un certain niveau. Et ce monde de belles pensées spirituelles, éventuellement même de grandes aspirations, de grands sentiments, qui ne rejoint plus à ce moment-là notre vie concrète, qui fait qu'on a des moments pour les choses de Dieu et puis on a des moments pour les choses concrètes, les choses de la vie. Mais en fait, il n'y a que le Verbe incarné qui peut faire la jonction entre les deux. Et donc, de revenir à ce regard posé sur Jésus et à essayer de nous remettre réellement dans une attitude d'écoute de son cœur, de le regarder dans les yeux, comme disait Benoît XVI il y a quelques mois, regarder Jésus dans les yeux. De rester à l'intérieur de cette relation simple, vivante et réelle avec une personne, simple, vivante et réelle. C'est ça qui nous prépare à recevoir les vraies lumières dont nous avons besoin pour nous convertir. C'est ça qui nous prépare à percevoir le vrai sens des événements dans le secret du cœur, sans nous perdre dans toutes sortes de raisonnements qui se veulent quelquefois très spirituels, mais qui ne sont pas à la profondeur de cette intelligence du cœur qui ne peut nous être donnée que quand nous regardons vraiment vers Dieu. C'est la raison pour laquelle, voyez, la manière dont nous vivons l'Eucharistie, et je dirais l'exercice premier, le terrain premier, disons plutôt d'exercice sur lequel Dieu nous attend pour nous faire entrer dans une vraie contemplation de Jésus. La messe, ce n'est pas un enseignement. La messe, c'est l'offrande d'une présence vivante qui vient à nous et qui se donne à nous de la manière la plus concrète et la plus radicale, c'est-à-dire en nourriture. Retrouver au moment de l'Eucharistie ce contact vivant avec la personne vivante du Christ, c'est ce qui va nous permettre de vivre tout le reste de notre journée dans une profondeur dans laquelle tout prendra sens et tout pourra effectivement concourir à ce chemin de sanctification et à notre victoire dans notre lutte contre le péché. Dans l'Eucharistie, Jésus ne donne pas simplement une présence vivante capable de rejoindre notre cœur d'une manière encore plus forte que sa parole. Il ne donne pas simplement une parole substantielle, mais c'est aussi un sacrifice réel. Précisément ce sacrifice qu'il a accompli pour que nous puissions nous sacrifier nous-mêmes à Dieu, renoncer vraiment à nous-mêmes, sortir de nous-mêmes. Ce sacrifice est rendu présent de manière que nous puissions effectivement nous laisser sauver par lui en déposant au pied de l'autel tous ces retours sur nous-mêmes, ces regards sur nous-mêmes, ces enfermements en nous-mêmes qui contaminent notre vie. À la base de notre confiance filiale au Père, de notre vrai désir de la vie éternelle qu'il nous promet, et de notre relation d'amour avec lui, il y a donc une foi. foi au Christ, rappelez-vous les paroles de Jésus, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a une foi au Christ qui est essentiellement une écoute, une adhésion. Nous avons donc besoin d'abord d'un cœur qui écoute, qui puisse se laisser effectivement toucher, attirer dans une intériorité qui est inséparable de cette attitude d'écoute, puisque c'est en sortant de nous-mêmes que nous descendons en nous-mêmes. Et le modèle de cette attitude d'écoute première, qui laisse le Père nous donner sa parole vivante qui est son Fils, qui la laisse descendre en nous et faire ses œuvres en nous, le modèle de cette attitude d'écoute, c'est la Vierge Marie. Donc, en définitive, dans notre combat spirituel, dans notre lutte contre le péché, contre notre vieil homme, il y a un secret qui est Marie, au sens où Marie la première a aimé Jésus et l'a suivi. Elle s'est laissée toucher, elle a contemplé et cru, elle a adhéré, elle s'est laissée modeler, formée par le Christ. Alors même qu'il était encore tout petit enfant entre ses bras, il était déjà son modèle, son chemin, sa vérité et sa vie, parce qu'elle le contemplait dans sa relation au Père. Elle l'adorait comme le Fils bien-aimé du Père, montrant le chemin vers le Père. Marie n'a cessé de grandir dans sa foi en Dieu, le Père, dans son espérance en Dieu, le Père, et dans sa charité. Elle a plus grandi dans les vertus théologales que tous les autres saints, parce qu'elle est restée toujours simple au regard sur son Fils. Si j'aime bien reprendre l'expression qu'a utilisée Jean-Paul II, qui est une expression de Dante, disant que Marie est la fille de son Fils. Il ne faut pas l'oublier si nous voulons comprendre vraiment la place de Marie dans notre vie spirituelle et dans notre combat spirituel. Il nous faut revenir à cette affirmation fondamentale qu'elle est la première à s'être laissée former, modeler, conduire au Père par le Fils. Et Marie nous apprend que ce chemin, par sa vie, elle nous apprend que ce chemin de conformation à Jésus, la vraie réussite de notre vie, autrement dit, cette croissance de l'homme intérieur, de notre vie théologale, c'est-à-dire de notre relation vivante à Dieu, de notre communion effective avec Dieu, nous découle toute vraie fécondité. Marie nous apprend que ce chemin extraordinaire qui nous fait déjà donc vivre quelque part de la vie du ciel, il peut se tracer dans une vie toute ordinaire. Marie est celle qui peut le mieux nous aider à ne pas rester dans deux vies parallèles, des moments de grands élans vers Dieu, avec de grandes pensées, et des moments où nous nous laissons retomber dans le brouillard de la vie quotidienne, en nous débattant comme nous le pouvons, c'est-à-dire humainement avec les choses humaines. Marie nous redit là où est la vraie beauté et la vraie réussite d'une vie. C'est-à-dire dans notre conformation intérieure au Christ de plus en plus profonde, mais sur le terrain même de cette vie toute humaine que Jésus a voulu lui-même assumer à Nazareth pour que sur ce terrain des choses matérielles, des problèmes matériels, sur ce terrain des relations quotidiennes avec les autres, nous puissions toujours nous unir davantage à lui. Jésus a voulu qu'il y ait une personne qui le suive entièrement et de la manière la plus vraie, la plus authentique, la plus fidèle et en même temps la plus accessible à tous. C'est pour ça que de modèle de vie chrétienne, nous n'en avons qu'un, c'est la Vierge Marie. C'est le seul modèle que nous pouvons accueillir entièrement, pas simplement parce que Marie est immaculée, mais aussi parce que Dieu a voulu, encore une fois, qu'elle mène la vie la plus ordinaire pour qu'elle puisse rejoindre les plus petits, les plus pauvres d'entre ceux qui désirent suivre Jésus, alors même qu'ils n'ont aucune grâce particulière. Ou du moins qu'ils ont l'impression de n'avoir aucune grâce particulière. Mais précisément, nous n'avons pas besoin de grâce particulière pour réussir notre vie. Nous avons simplement besoin de regarder Jésus, de nous laisser attirer par lui et de le suivre dans les événements de notre vie. C'est ça que Marie nous redit par sa vie. Père Thomas Philippe aimait citer saint Thomas d'Aquin, disant que Marie avait tous les charismes et qu'elle n'en a exercé aucun, sauf le jour du Magnificat. Ça peut rester une question disputée, mais ce qui est sûr, c'est que nous ne voyons aucun fait extraordinaire. Marie n'a pas fait de miracle, elle n'a pas prêché. Et ça, c'est clairement dans le dessein de Dieu, en vue de sa maternité spirituelle, sur nous pour que nous puissions ne pas nous tromper sur ce qui fait la vraie valeur d'une vie. Marie était trop tournée vers Jésus pour avoir un moindre retour sur elle-même. Elle est l'Immaculée parce qu'elle ne s'est jamais regardée elle-même. Elle est pure de toute emprise du péché originel sur elle. Et gardant les yeux fixés sur Jésus, elle n'a cessé d'aller plus loin dans cette ouverture, dans cette extase, dans cette sortie de soi, par cette humilité qui faisait dire à Saint Louis-Marie de Montfort que Marie était relation à Dieu. Toute perdue en Dieu. Ce que nous demandons de Marie, c'est qu'elle nous donne les dispositions de son cœur de disciple. Les dispositions filiales sont dans le cœur de Jésus. Mais ce que nous demandons à Marie, c'est sa foi très pure avec laquelle elle a adhéré à Jésus. C'est son écoute du cœur. Bienheureuse celle qui a cru. Et donc, quand nous nous sentons emmêlés en nous-mêmes, quand nous nous sentons, j'ai envie de dire, tout barbouillés de nous-mêmes, et incapables de sortir de la recherche de notre intérêt, de nos préoccupations personnelles, et que nous n'arrivons pas à tourner notre regard vers Jésus, que nous nous sentons incapables de passer d'un regard sur soi à un regard sur lui, il nous reste Marie, refuge des pécheurs. Il nous reste le cœur immaculé de Marie. Marie, donne-moi tes yeux pour contempler Jésus. Si Marie a demandé elle-même qu'on se consacre à son cœur immaculé, c'est qu'elle savait que l'Église avait besoin de revenir à la source de la vraie sainteté. Revenons à la contemplation de Jésus. Et donc, elle se présente à nous ici comme notre mère spirituelle qui nous demande de l'accueillir pour que nous puissions, avec elle et par elle, trouver la source d'un vrai renouveau de notre vie. Ça vaut pour chacun de nous et ça vaut pour l'Église tout entière, qui est appelé quelque part à renaître du sein de Marie. Je vous rappelle que c'est Paul VI qui a voulu que soit proclamé solennellement à la fin du Concile la vérité selon laquelle Marie est la mère de l'Église elle-même. Donc en réalité, c'est toute l'Église qui a besoin de retourner dans le sein de Marie pour pouvoir renaître à une vraie vie de conformation et d'union au Christ. Le Jean-Paul II, conscient de l'enjeu de cette consécration à Marie, de cet accueil du chemin qu'est Marie, du chemin vers Jésus, du chemin à Jésus qu'est Marie. Donc, a voulu renouveler le rosaire comme une arme spirituelle, en même temps qu'il nous a invités à remettre l'Eucharistie au cœur de notre vie, il a voulu nous inviter à laisser Marie nous introduire dans l'Eucharistie, donner la grâce donc d'ouvrir notre cœur à la présence de Jésus et de nous laisser toucher et rejoindre par lui dans l'Eucharistie, par les dispositions de son cœur immaculé, appelant Marie la femme eucharistique, celle qui avait le plus profité de l'Eucharistie. Et Jean-Paul II, dans son désir donc d'aider l'Église à entrer dans le troisième millénaire et à se préparer à un nouveau printemps de l'Évangile, donc nous a invités à retrouver l'usage de cette arme qu'est le rosaire, et dans lequel nous ne faisons rien d'autre que de contempler Jésus avec Marie. Alors je sais bien qu'il y en a qui ont du mal avec le chapelet, mais pensez que dans tous vos efforts pour regarder Jésus et pour l'écouter, Marie ne demande qu'à vous donner ses yeux, qu'à vous donner son cœur immaculé, que même vous, si vous ne récitez pas une dizaine de chapelets, vous pouvez vous blottir dans son sein en prenant simplement conscience de la faiblesse de votre foi, de la faiblesse de cette adhésion intérieure au Christ que Jésus attend de chacun de nous, et qu'il veut donc nous donner par l'intercession et la médiation de sa mère. Ô bienheureuse Vierge, ma divine mère, donnez-moi vos yeux si purs pour contempler Jésus. Donnez-moi votre cœur pour l'aimer. Gravez profondément en mon âme l'image si douloureuse et pourtant si rassurante de sa passion et de sa glorieuse résurrection, afin qu'ayant toujours Jésus présent à mon esprit et à mon cœur, je vive jusqu'à ma mort d'une vie toute sainte, toute pure, toute humble, toute cachée en Dieu, avec Jésus et vous, ma bonne mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.